Bonjour Fabrice Drouel et bonjour à tous. Aujourd'hui, un train de légende, l'Orient Express.
Orient Express, we depart from platform 1 at 9 p.m. for Ozengrad, Sofia, Belgrade, Zagreb, Brod, Trieste, Paris, Milan, Lausanne.
D'histoire. Le 4 octobre 1883, à 19h30, sur un quai de la gare de l'Est, qui s'appelait alors la gare de Strasbourg, commençait le premier voyage du train le plus célèbre du monde. Dans les voitures luxueuses de la toute nouvelle compagnie internationale des wagons-lits, parmi les ministres et les rares privilégiés qui avaient pu y monter, Edmond Abou écrivait: la soirée du jeudi 4 octobre fut pour moi une révélation. Elle m'ouvrait un monde que je n'avais pas entrevu, même en songe. Edmond Abou réalisait en effet le rêve audacieux d'un homme d'affaires belge, Georges Nagelmakers, qui voulait relier Paris à Constantinople en 80 heures. Si aujourd'hui, à l'heure de l'avion ou du TGV, le projet de Nagelmakers nous paraît dérisoire, à l'époque il était insensé. L'Europe n'avait pas encore, comme l'Amérique, de grandes lignes intercontinentales, il était impossible d'y voyager dans le même train, sur une aussi longue distance, et surtout d'y dormir. Les wagons-lits n'existaient pas, et les voyages de nuit étaient un calvaire. Autant dire que dès sa naissance, l'Orient Express a fasciné l'Europe entière, comme il continue de le faire sous des noms différents depuis plus d'un siècle.
Cabine 1, la première cabine ici sur votre gauche, cabine 2, la deuxième. Installez-vous et bienvenue à bord du Venise-Simplon Orient Express.
Merci.
Ces deux cabines qui communiquent donc sont composées chacune d'une banquette qui est transformée la nuit en lit. Ah, les lits sont faits au carré avec la petite boîte de bonbons posée délicatement sur le lit et la petite paire de pantoufles qui vous attend juste au pied du lit. Voilà.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à bord de Venise-Simplon Orient Express. Le maître d'hôtel passera vous voir dans quelques instants pour prendre votre réservation pour le dîner. Le directeur de train ainsi que tout le personnel de bord vous souhaite un agréable voyage à bord de Venise-Simplon Orient Express. Merci.
Vladimir Fedorovski, bonjour.
Bonjour.
Alors, le roman de l'Orient Express, c'est le titre de votre dernier livre publié aux éditions du Rocher. Comment se fait-il que, quand on pense aux grands trains célèbres, le train bleu, la Malle des Indes, le Transsibérien, l'Étoile du Nord, la Flèche d'Or, le premier nom qui vienne à l'esprit, c'est celui de l'Orient Express et qui nous fascine encore plus de 120 ans après sa naissance? Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres trains, Vladimir Fedorovski?
Je dirais le fantasme, l'amour, le mystère, l'évasion, mais puis c'était le premier, le plus luxueux, le plus performant. C'était le train qui a inauguré l'Europe aussi, pourquoi ne pas le dire. On pouvait voyager dans ce train juste avec une carte de visite. Et puis c'est le train de l'histoire, de la grande histoire, de la petite histoire. Pourquoi ne pas le dire, tant de choses énigmatiques se sont passées dans ce train. Alors ce train nous fait voyager à travers le siècle et nous réconforte aujourd'hui.
Alors, vous le disiez, bon, aujourd'hui, bien sûr, ça nous paraît un peu archaïque comme mode de transport, surtout ça, parce qu'il y a l'heure du TGV quand même, puis il y a les avions. Mais à l'époque, c'était très moderne. Il faut rappeler que, vous le disiez, il n'y avait pas de trains transcontinentaux, sauf aux États-Unis. Il n'y en avait pas en Europe, d'abord. Ça, c'est une grande révolution qui se produit.
Bien sûr. Mais le créateur de ce train, c'est au fait un jeune ingénieur belge, Nagelmakers. Il a vu les Pullman qui ont fonctionné.
Voilà, aux États-Unis.
Aux États-Unis. Hein. Il est allé aux États-Unis. Mais après, il a voulu faire plus. Il voulait que ce soit le plus performant sur le plan technique. Mais il faut rajouter les performances aussi esthétiques. Mmh. Pourquoi on peut le dire? Parce que surtout, pendant les années folles, c'était vraiment le train luxueux, le plus luxueux du monde. Ça reste toujours. On me dit que c'est encore plus luxueux aujourd'hui qu'avant, mais en tout cas, c'est le roi de train et le train des rois.
Effectivement. Alors, vous rappeliez, pour que ce train existe, il faut voyager quand même au minimum 3 jours ou 2 jours et demi pour aller à Constantinople à cette époque-là. Donc, il fallait pouvoir dormir. Ce qu'invente Pullman aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le sleeping car. En fait, c'était des dortoirs. Je crois que les lits étaient séparés simplement par des rideaux. Nagelmeckers va plus loin. Lui, c'est les wagons couchettes et c'est les wagons lits. Alors, il crée une société qui va être celle de l'Orient Express. C'est la Compagnie internationale des wagons-lits.
Bien sûr. Et c'était, bien sûr, il y avait derrière ça une sorte de but lucratif. Elle était soutenue par les rois des Belges. Mais au-delà de ça, il y a un désir vraiment de l'absolu dans le voyage. Et je pense que la performance de Nagelmeckers dépasse, disons, les affaires qu'il a cherchées. Il voulait que ce train nous fait fantasmer. Il a réussi parfaitement.
Alors, il fonde en 1876, je le disais, la Compagnie internationale des wagons-lits, avec laquelle il projette de relier Paris à Constantinople, 3000 kilomètres quand même, en 80 heures, sur le premier train transcontinental en Europe, Jean-Paul Caracalla de la Compagnie internationale des wagons-lits.
Moi, je pense que le mot Orient Express est un mot magique. Bon, nous l'appelions au départ, ce train, le train direct d'Orient. Mais le mot allemand, Orient Express, parce qu'en fin de compte, c'est l'allemand qui a dit l'Orient Express. C'est génial, comme raccourci et très saisissant. Nagelmeckers va faire un train qui partira de la France de Sadi Carnot, qui était le président de la République, jusqu'en Turquie, dirigé par Abdülhamid, le fameux sultan, en passant par la Bavière de Louis II de Bavière, l'Autriche-Hongrie de Sissi et de François-Joseph, la Serbie d'Alexandre, la Bulgarie de Ferdinand et la Roumanie de Carole. C'est vraiment extraordinaire.
C'est vrai, Vladimir Fedorovski, qu'il fait rêver dès le départ, ne serait-ce que l'évocation des souverains, bien entendu, et puis aussi des gares. Alors, il démarre de Paris, gare de Strasbourg, c'est-à-dire gare de l'Est, le 4 octobre 1883. Il est destiné à aller à Constantinople, il passe par Munich, Vienne, Budapest, Bucarest et Varna sur la mer Noire. Je crois qu'à l'époque, la liaison n'était pas tout à fait faite avec Constantinople, il fallait y aller en bateau.
Non, pas directement, mais je vous évoquais quelque chose d'essentiel pour moi. Je dois vous dire que ce train est vraiment romanesque rien que par ses arrêts. Parce qu'on passe par les villes extraordinaires. J'adore les villes de Mitteleuropa. On se rend pas compte, c'est la vraie Europe aujourd'hui. C'était la vraie Europe depuis toujours. J'aime Budapest. Budapest, avec tant d'aléas de l'histoire, il y a une petite dérive que je fais souvent vers Prague. C'est pas exactement l'arrêt de premières allées d'Orient Express, mais Orient Express va aujourd'hui à Prague. Quelle ville magnifique, Kafka, le métamorphose, tout est là. C'est la vraie Europe qui est là et le destin des voyageurs. Le destin des voyageurs d'Orient Express nous subjugue, parce que n'oublions pas, vous avez évoqué les rois, mais les grands artistes, grands amoureux.
Vous les évoquez beaucoup. On en reviendra, mais là, ce que vous citez comme capitale, à part Prague, c'est les villes du premier Orient Express. Car il y en a eu plusieurs, Vladimir Fedorovski. Lorsqu'en 1905, le tunnel du Simplon est creusé, alors là, l'Orient Express va toujours en direction de Constantinople, va passer par Milan, par Venise aussi.
Bien entendu, les villes italiennes, et puis, franchement, l'histoire de l'Europe. On peut le reconstituer à travers la tracé d'Orient Express. N'oublions pas qu'il y a une controverse. Tout d'abord, la première controverse tout à fait banale, et Dieu sait qu'elle a coûté cher à l'Europe, c'est entre les Allemands et les Français. Hitler détestait l'Orient Express. Et puis enfin, chaque fois que l'Europe marche, l'Orient Express marche. Chaque fois que l'Europe s'arrête, l'Orient Express s'arrête. Pourquoi ne pas le dire? Vous savez, le coup terrible a été porté par la guerre froide, on va en parler.
Oui, mais revenons à ces guerres, justement. Quand vous dites quand l'Europe ne marche pas, le train s'arrête. Il s'arrête en 1914. Les wagons sont dispersés un peu partout. On ne sait pas. Enfin, c'est en tout cas un wagon de la Compagnie internationale des wagons lits qui est réquisitionné par le général et futur maréchal Joffre. C'est dans ce wagon qu'on va signer l'armistice du 11 novembre 1918. Et d'ailleurs, Hitler, comme vous le disiez, qui détestait l'Orient Express et qui l'a supprimé en 1942, va quand même faire venir ce wagon pour faire signer aux Français l'armistice de 1940.
Bien entendu, la grande histoire nous rattrape avec l'histoire de la compagnie de wagons-lits. Je peux vous rajouter à ce que vous avez cité, peu de gens savent que Khrouchtchev, il a pris la décision de construire le mur de Berlin dans le train. Tout ça se rejoint, mais à côté de la grande histoire, je voudrais quand même souligner que les murs gardent souvent les mémoires. Et Dieu sait que les wagons-lits gardent aussi la mémoire du destin exceptionnel. Il ne faut pas oublier Laurence d'Arabie, Marlène Dietrich, les grandes amoureuses, les grandes aventurières. Ils ont été tous là dans l'Orient Express.
Et dans un train qui s'est modernisé après la Première Guerre mondiale pour accueillir une clientèle de luxe et de gens célèbres dans des wagons qui sont aussi de luxe.
Alors, c'est une voiture qui, elle a pratiquement comme toutes les voitures que nous allons visiter, présente un décor essentiellement de bois, de bois couleur classique, marron léger. Cette voiture, j'ai oublié de vous le dire, date de 1926. En majorité, les voitures que nous allons visiter sont de 1926 à 1930, qui était considérée la plus grande période au point de vue luxe de l'Orient Express. Devant vous, le bar, un petit bar, très élégant d'ailleurs, toujours aux mêmes couleurs, ces couleurs rouge, marron. Alors cette voiture comporte un merveilleux décor de présentation de cristaux de lalique, il y a entre chaque fenêtre, qui n'ont absolument pas été retouchés, qui ont toujours été sur la voiture depuis qu'elle a été construite.
Alors c'était pas des wagons à bestiaux, hein, l'Orient Express, Vladimir Fedorovski, c'est vrai que c'était luxueux et accessible à un très petit nombre de clients.
Bien sûr, oui et non, finalement, le voyage en amoureux aujourd'hui ne coûte pas très cher si vous êtes prêt à Paris, mais Dieu sait que le grand créateur, ont contribué à la construction de la légende, cette fois, d'Orient Express. Les meilleurs proues, bien entendu, Morisson, vous avez parlé de Lalique. Ils ont été tous là pour remplir ce train des petites choses esthétiques qui comptent pour les artistes. Et c'est un train des grands amoureux, c'est un train des artistes et des grands décorateurs, mais c'est un train aussi des rois et des grands hommes politiques.
Et où l'on vit, hein, il y a des menus extraordinaires, vous en citez quelques-uns dans votre livre, Vladimir Fedorovski. Vous citez un train des rois, effectivement, le roi des trains, le train des rois. Alors il y a Guillaume II qui l'a pris, et même il est allé plus loin, parce qu'on a prolongé
l'Orient Express jusqu'à
Bagdad. Et puis alors il y a un roi étonnant, c'est le roi de Bulgarie, hein, Ferdinand Ier. Quand l'Orient Express passait à travers son pays, je crois qu'il l'arrêtait.
Ah bien sûr, parce qu'il voulait que le train marche le plus rapidement possible. Il est entré dans le train dans une sorte de déguisement très particulier. Les rois ont été impliqués, comme le roi de la Bulgarie, dans le fonctionnement physique, je dirais, des trains. Mais quand j'entre dans ce train, et Dieu sait que je l'ai pris, je vous signale qu'il y a quelque chose de physique que vous ressentez. La légende est perceptible.
Il y a des rois aussi qui ont été sauvés par l'Orient Express au moment après les révolutions, etc. Ils se sont enfuis de leur pays grâce à l'Orient Express. Mais alors il y a aussi...
Vous parlez de roi de la Roumanie qui s'est sauvé.
Oui, Carole.
Oui, bien sûr.
Alors il y a aussi des milliardaires, des Madone des Sleeping, on s'en doute, évidemment. Quand il y a des milliardaires, il y en a toujours. Des écrivains, Loti, Morand, Agatha Christie, qui va même d'ailleurs s'en inspirer pour l'intrigue d'un roman policier, Le Crime de l'Orient Express, en y faisant monter le plus célèbre de ses héros.
Quelle surprise! Une figure de connaissance! Mon vieil ami Hercule Poirot! J'espère que vous prenez l'Orient Express.
Ah, bien entendu!
Mais c'est merveilleux! Alors nous allons nous voir pendant 3 jours! Quelle chance! Eh bien ce soir, nous dînerons dans le train.
Ah, monsieur le directeur! Je vous attendais. Vous avez le 9, comme d'habitude.
Merci Pierre. Est-il exact que tout est complet?
C'est exact, monsieur. À croire que tout le monde a choisi de voyager ce soir.
En tout cas, il faut que vous me casiez, monsieur Poirot.
Monsieur Hercule Poirot? Le célèbre détective?
Précisément. Et en outre, c'est un de mes meilleurs amis.
L'Orient Express part à 9h au quai numéro 1. À destination de Ouzoukovo, Sofia, Belgrade, Zagreb, Rome, Trieste, Venise, Milan, Lausanne, Bâle, Paris et Calais, avec la correspondance pour Londres.
Dans le train de nuit, il y a des fantômes qui me sourient quand nous passons sur les prairies. Dans le train de nuit, il y a des royaumes. Et puis du bruit, et puis Paris au bout de la nuit. Les souvenirs si tendres viennent s'y faire entendre. J'entends la voix des flots enchanteurs qui font au fond de mon cœur des sérénades. J'entends le triste appel des bateaux et la chanson des oiseaux sur l'esplanade. Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant. J'entends la ville qui me dit bonsoir. Et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
En quittant une ville, Charles Trenet, en 1938, 4 ans, à l'époque d'ailleurs où l'Orient Express avait son plus grand succès, puis ça c'était 4 ans après la sortie du Crime de l'Orient Express, qui est une fiction bien sûr, mais Agatha Christie, quand elle s'est inspirée du train, c'est qu'elle y est montée. C'était une cliente assidue de l'Orient Express, Vladimir Fedorovski.
Absolument, c'est une grande voyageuse. Il a voyagé vraiment, je dirais, j'ai calculé, j'arrive à 60 voyages, vous comprenez, c'est inimaginable ce qu'elle a fait. Et n'oublions pas qu'elle reconstitue dans ses livres ce qui est réellement passé. En tant que décrivain, je suis vraiment étonné que l'art peut nous donner des clés, les clés de la réalité. On dirait qu'elle était prémonitoire. Il s'inspire de faits réels, vous savez, de l'arrêt de trait.
Alors oui, il faut rappeler ça, Fredowski, c'est dans le crime de l'Orient Express, il y a un crime qui se produit et Poirot enquête pendant que le train, et parce que le train est bloqué dans les neiges. Or ça c'est vrai, je crois que
c'est
passé en 1929.
Ça c'est un fait absolument réel, oui. Il était frappé par ce fait. Mais après, il raconte ça, je relis ça pendant mon voyage en Orient Express à Prague pour vous dire la vérité. Je dois vous dire, j'étais étonné jusqu'à quel point elle s'inspire des faits réels. Et on comprend comme ça jusqu'à quel point ce train était énigmatique. Je dis mystère, amour. Et l'énigme, les énigmes de l'histoire, on dirait, dans son journal, elle raconte qu'elle espionnait un tout petit peu. Alors, je dis qu'elle est Elle était espionnée des espions. Et Dieu sait que ce train, c'était aussi...
C'était le train des espions. Il y a tout un chapitre de votre livre là-dessus. Alors, des espions. Il y en a que vous citez et qu'on ne peut pas ne pas mentionner. C'est un diplomate suédois qui travaillait pour le compte des États-Unis en secret et qui s'appelait Raoul Wallenberg. Alors, il faut rappeler que l'Orient Express... quand cet événement se produit, a été arrêté par Hitler, qui le détestait, vous le rappelez, mais que grâce à Wallenberg et grâce aux wagons de l'Orient Express, eh bien, des milliers de juifs hongrois ont été sauvés.
Oui, au moins 20 000, sinon...
Rappelez-nous cette histoire, Vladimir Fedorovski.
30 000 personnes. Il y avait un personnage toujours bizarre dans les Orient Express. Il y a des gens qui travaillent sous les couvertures souvent des Playboy. Il était un Playboy, un héritier richissime suédois, qui était soi-disant diplomate suédois, en fait, une sorte de second couteau. Il était second couteau peut-être dans la diplomatie, mais il était tout premier couteau dans l'espionnage, mais surtout dans l'œuvre humanitaire, parce que avec la complicité des Américains et des Anglais, il a su donner des passeports, tout banalement, les gens qui devaient être persécutés d'un pays neutre, la Suède, et les sauver. Et tout se passait dans l'Orient Express. Mais vous savez, à un moment donné, surtout entre les deux guerres, mais pendant la guerre froide, c'était vraiment au lieu d'espionnage. N'oublions pas qu'à ce moment-là, Staline a créé le meilleur service secret du monde quand les documents du monde entier...
Il y avait des avions, Fedorovski.
Mais oui, parce que je pense que c'était...
Les diplomates,
je pense, il y a un goût. Par exemple, il y avait un chef de contre-espionnage anglais, un certain Philby, vous connaissez le groupe de cinq, des cinq... qui était en réalité agent de Staline, qui était un voyageur assidu d'Orient Express. Je raconte dans le livre le fonctionnement du département d'empoisonnement du KGB. Il y avait quelqu'un qui se présentait comme ambassadeur de Costa Rica à Vatican. En réalité, c'était un tueur vraiment en chef de Staline. Il préparait l'assassinat de Tito ou bien l'assassinat de Trotsky qui se préparait dans ce train. Bref, il y a beaucoup de personnages qui ont marqué ce train des rois, vous dites, mais c'est le train d'espions et des grandes amoureuses. Dieu sait que les grandes
actrices...
Marlène Dietrich. Marlène Dietrich, ça m'a marqué personnellement parce que quand j'étais jeune, à 13 ans, j'ai entendu la première fois le nom d'Orient Express dans la bouche de Marlène Dietrich. Il racontait ses amourettes, ses histoires d'amour, et c'est que sa plus grande histoire d'amour avec le réalisateur d'Ange Bleu, et tout s'était inspiré de l'Orient Express.
Si vous citez Diaghilev, Serge Liffard, qui étaient des habitués.
Je dois vous dire que vous avez souligné que le côté artistique de ce train, l'esthétique de ce train, c'est le temps luxueux, mais Dieu sait que les artistes du monde entier, quand ils pouvaient, ils voyageaient dans ce train. C'est une inspiration. Dali m'a raconté ses inspirations dans l'Orient Express. Diaghilev, qui réunissait le troupe, il y avait l'appellation de ballet russe. En réalité, c'est un ballet, c'était un troupe complètement européenne. Ils ont été sous cela, Matisse, Picasso, Dali. Et ils sont voyagés dans l'Orient Express. Dans le livre, je raconte surtout leur voyage énigmatique et en même temps amoureux de Diaghilev et son favori, Liffard, à Venise. Parce que pour chaque ville, je prends un personnage. Pour Vienne, c'était Marlène Dietrich. Pour Venise, ce sera Diaghilev et les grands artistes, mais aussi les grands espions comme Wallenberg pour Budapest. Pour chaque ville, il y a les personnages emblématiques. Et c'est ainsi qu'on pénètre dans l'énigme de ce train inoubliable.
En montant plus loin dans le passé, vous l'avez cité, Laurence d'Arabie aussi.
Laurence d'Arabie, c'est une sorte d'antise de l'Europe. Mais Laurence d'Arabie devait nous faire réfléchir par rapport à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Il était hanté par l'Orient, mais je dois vous dire, qui était ce personnage? Est-ce que c'était un agent anglais? Est-ce que c'était l'ami des Arabes? Il était à la fois ou le plus grand prince que le monde a connu, comme disait Churchill à propos de ce voyage dans l'Orient Express.
Il faut rappeler d'ailleurs que cet Orient Express, il a eu des ramifications, on en citait. Par exemple, on pouvait aller jusqu'à Bagdad, on pouvait aller jusqu'au Caire. Hein, à Agatha Christie, son premier voyage, c'était jusqu'au Caire, parce qu'il y avait un prolongement à partir de Constantinople qui s'appelait le Taurus Express. Alors, cela dit, tout ça n'a pas empêché, bien sûr, la concurrence de trains plus rapides, et puis surtout, bien sûr, de l'avion qui va plus vite à Istanbul. Et l'Orient Express effectue donc son dernier voyage, sous ce nom en tout cas, en 1977, pour être vendu aux enchères, Jean-Paul Caracalla.
En 1976, au moment du centenaire des wagons-lits, on commence à comprendre que les voitures de la compagnie sont un patrimoine. Donc ces voitures, elles étaient destinées soit à la démolition, soit au musée, comme on dit. Avec des amis, on a pensé qu'il serait bien de vendre des voitures, mais comme des objets de luxe. Et donc, nous avons pris contact avec Sotheby's.
Monte Carlo a servi de cadre à la vente la plus insolite de l'année. 3 wagons-lits, 1 wagon-restaurant et 1 wagon-salon des années 20. La voiture-restaurant s'en vête à 290 000 francs. Les wagons-lits à 800 000 francs les 3.
Dans la voie numéro 8, le train spécial Society Expedition, Nostalgie Orient Express, Istanbul, partira en voiture, s'il vous plaît, et bon voyage.
Alors, on n'aurait pu craindre Vladimir Fedorovski qu'après la vente de 77, il est disparu. En fait, il va continuer ces wagons qui ont été rachetés, qui ont été restaurés, vont continuer de rouler sur des lignes qui portent des noms différents. Il y a le Nostalgie Orient Express, le Pullman Orient Express. Bref, c'est marrant d'ailleurs, il garde ce nom, mais il change de prénom. Mais il roule encore.
Il roule encore, on peut aller à Venise, c'est une journée et demie, on peut aller jusqu'à Prague, ce que je préfère en 2 jours, mais on peut aller tout banalement pour une petite escapade près de Paris, parce que n'oublions pas que la compagnie de wagons-lits, elle a fait un travail considérable pour conserver, l'historique du train. Et comme ça, on a reconstitué à l'identique les plusieurs wagons qui sont présents aujourd'hui, et ils peuvent rouler pour des dîners un peu à l'énigme ou pour les une sorte de croisière près de Paris. Alors, si vous êtes amoureux, prenez l'Orient Express, parce que là, vous retrouvez quelque chose de formidable et imperceptible. On voyage souvent très rapidement aujourd'hui, trop rapidement. Là, on retrouve un rythme, l'histoire, mystère, amour et l'évasion.
Qu'est-ce qui fait qu'on puisse aller aujourd'hui, alors qu'on pourrait très bien prendre le TGV ou l'avion, qu'on ait envie, bon, indépendamment du fait qu'on peut être amoureux et partir avec son amoureuse ou son amoureux sur l'Orient Express, est-ce que c'est pas quelque chose de perdu à cause de l'avion, c'est-à-dire le fait de prendre son temps quand on voyage et de voir ce que les pays par lesquels on passe, ce qui n'existe pratiquement plus, et en TGV on le fait trop vite.
Bien sûr, ça vous visez juste, parce que moi je constatais, quand j'ai travaillé sur l'Orient Express, que les gens veulent retrouver un rythme d'autrefois. Et puis, il y a un besoin tout à fait exceptionnel de retrouver les racines. En fait, je pense que ce train peut nous permettre de retrouver les racines à travers l'Europe éternelle qui nous est chère, le rythme qui est à contrario de, disons, des rythmes effrénés de l'époque, et les personnages qui ont marqué ce train nous réconfortent aujourd'hui. Je suis persuadé que l'histoire nous donne des clés pour comprendre l'avenir. L'histoire d'Orient Express en particulier.
Cela dit, c'est quand même pas un train, même s'il roule encore, c'est pas un train accessible. Il n'a jamais été d'ailleurs un train accessible à tous. C'est ça qui peut paraître, bon, on est fasciné, mais qu'est-ce qu'on voit quand on est des grandes duchesses, des princes, des rois, des ambassadeurs, ça n'a jamais été un train populaire.
Oh, attendez! Justement, j'ai essayé de raconter que ce train était pas seulement le train de roi, c'était le roi des trains, parce qu'il habitait les artistes, parce qu'il habitait les grands amoureux, les grands aventurières, bien entendu. C'était le train de l'Europe. Je vous dis, ce train nous réconforte pas parce que c'est un train luxueux. C'est rempli de légendes et c'est rempli de personnages d'exception.
Merci Vladimir Fedorovski pour ce voyage dans le passé que l'on retrouve donc dans votre livre, le roman de l'Orient Express, publié aux éditions du Rocher. Un voyage dans l'histoire, mais aussi sur les 3000 kilomètres de ce train de légende qu'était l'Orient Express.
Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous arriverons à Istanbul en gare de Sirkeci. Veuillez vous assurer que vous n'avez rien oublié à bord et que votre passeport vous a bien été remis. We wish you a pleasant stay in Istanbul. Thank you and goodbye.
Le roman de l'Orient Express, c'est le titre donc du livre de mon invité, Vladimir Fedorovski. On pourra lire aussi bientôt un autre livre dont je recommande à l'avance la lecture parce que j'en connais l'auteur et qu'il est bon. C'est le Dictionnaire amoureux des trains de Jean Descartes qui sortira fin octobre chez Plomb. Vous avez pu entendre des extraits du film Le Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet, disponible en DVD chez Canal Plus Vidéo, et du documentaire L'épopée de l'Orient Express de Tania Rachmanova, diffusé sur Arte, un excellent documentaire. Et puis d'autres émissions aussi de radio cette fois-ci, quelques extraits de Lieux de mémoire par Florence Marguier diffusé sur France Culture en 1999 et Tabou de Serge Martin sur France Inter en 1984. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Edwin Caron et Farid Chibani, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Comilac.